Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
Bon, beaucoup de nouvelles concernant le dépistage, des sorties aussi concernant l'origine de la COVID-19. On s'est dit que c'était une bonne occasion pour parler à la présidente de l'Association canadienne de virologie, Mme Nathalie Granvaux. Bonjour, Mme Granvaux.
Bonjour, Mme Peterson.
Bon, commençons tout d'abord avec cette histoire. Hier, c'est ironique, on parlait de la Chine avec un journaliste d'ici, justement, notamment sur le fait que le gouvernement chinois est toujours impliqué dans des affaires pas tellement nettes. Et là, cette nouvelle-là qui sort, ajoute un peu de l'eau au moulin. C'est une virologue chinoise qui ravive cette idée selon laquelle la COVID-19 serait justement un virus créé par l'homme et un virus créé dans un laboratoire chinois. Qui plus est, vous êtes virologue, mais vous êtes aussi président de l'association. Quand vous voyez ce genre de sortie-là, à quel point vous portez attention à ça? Trouvez-vous ça crédible?
Ben écoutez, ça dépend de qu'est-ce qui est donné, mais dans le cas de la personne qui fait ces accusations-là, parce que c'est une accusation, il n'y a aucune donnée pour supporter, il n'y a aucune preuve, il n'y a aucun élément qu'elle apporte qui nous permet de dire, d'apporter de l'eau au moulin, comme vous dites, pour dire, effectivement, c'est un virus qui viendrait d'un laboratoire. Donc, à partir du moment où c'est juste une personne qui parle et qui n'apporte pas de données scientifiques qui supportent ses propos, c'est difficile de tenir compte de son argumentation. Moi, dans ce que je regarde, c'est que tous les éléments qu'on a scientifiques actuellement qui ont été analysés par de multiples virologistes dans le monde, tous ceux qui les ont analysés, mis à part deux histoires qu'on a entendues, arrivent à la conclusion que c'est pas une fabrication humaine. Donc, pour l'instant, je pense, avec les données de la science, c'est pour dire que c'est un virus d'origine naturelle et qui est venu d'une contamination de l'homme par un animal. C'est les meilleures preuves qu'on a pour l'instant.
Ben oui, c'est les meilleures preuves. Puis c'est dommage parce que quand on s'attarde à cette nouvelle-là et qu'on commence à lire un peu, ça a quand même un aura de crédibilité. Là, cette personne-là aurait travaillé dans une prestigieuse université d'Hong Kong, dans un des principaux centres mondiaux de recherche sur les maladies infectieuses. Tu sais, tu regardes ça puis tu fais, si elle dit ça, puis j'entends ce que vous me dites, là, j'entends totalement qu'au niveau scientifique, c'est pas là où nous en sommes, mais tu sais, allons parler de la perception des gens, parce qu'il y a un nouveau sondage qui est sorti sur notre perception des risques par rapport à la COVID-19 et aux nouvelles consignes sanitaires, et c'est pas encourageant, là, quand même, Mme Granvaux, la plupart des Québécois aurait une mauvaise compréhension du niveau du risque de contracter le virus. Beaucoup de gens sortent, puis là, on va avoir une manifestation de personnes qui remettent en question justement les consignes sanitaires. Et sont en grand nombre en ce moment les gens qui pensent qu'on exagère, que le masque, c'est pas efficace, que la COVID-19, ça tue moins qu'on dit, qui sortent même des études. Pourquoi on en est rendu là?
Ben, je pense qu'il y a plusieurs éléments là-dedans. Et puis, il y en a un que vous avez mentionné au début qui est très important. Je pense que les gens qui s'expriment comme la personne, la chercheuse chinoise ou comme moi je le fais, on a la responsabilité de le faire avec des données, de parler de données et non pas de parler de notre avis personnel. Je pense que ça, c'est extrêmement important. Après, vous avez mentionné, c'est une chercheure qui a une formation qui vient pas de n'importe où, mais ça n'empêche qu'il faut se baser sur des données factuelles et que des fois on peut faire des erreurs. Je vous remettrai dans le contexte qu'il y a quelques semaines ou mois maintenant, le temps passe tellement vite, mais une des premières informations qui était arrivée pour dire que le virus n'était pas un virus naturel mais qui avait été créé par l'humain venait de quelqu'un qui avait reçu le prix Nobel, et sa publication a été retirée par la suite parce qu'en fait, c'était pas du tout des faits avérés, en tout cas qui n'avaient pas été analysés de la bonne façon. Et donc, en fait, on n'est jamais à l'abri d'erreurs d'interprétation. Mais après, je pense que c'est à nous, en tant que scientifiques, de s'assurer qu'on parle en termes de données probantes et non pas d'opinion personnelle. Donc ça, c'est le premier point. Oui. Mais la deuxième, pour l'opinion des gens, je pense que c'est un processus actuellement, malheureusement, très normal, dans le sens où Les données qu'on a évoluent très vite. Puis, je vais prendre un exemple ici parce qu'autour de moi, les gens me posent beaucoup de questions. Puis, j'avais une discussion justement ce matin avec quelqu'un de ma famille qui me demandait, mais pourquoi on a diminué le nombre de jours de...
On est passé à 10.
C'est ça. En France, ils sont passés à 7 au lieu de 10. Puis, fait que là, je lui dis, j'expliquais que nos connaissances évoluent. Et au fur et à mesure, on apprend tous ensemble. Les scientifiques apprennent en même temps que la population et c'est une situation qui ne se présente quasiment jamais. Donc là, on apprend tous ensemble et on évolue. Et je pense que pour la population qui n'est pas dans les données, c'est difficile de comprendre que tout ça évolue et que donc les consignes changent.
Il y a aussi l'abondance de données.
Exactement. C'est qu'il y en a beaucoup. C'est bien. On a beaucoup d'informations scientifiques qui sont véhiculées par les médias. Mais c'est vrai que c'est beaucoup aussi d'informations. Il y a beaucoup de contradictions. Et c'est d'habitude, ces débats-là se font à l'intérieur de la communauté scientifique. Et une fois qu'il y a un consensus, quand on a le temps de développer un consensus, c'est en fait des règlements, des lignes directrices qui sont établies. Ici, on fait tout en même temps. Et ça, c'est très perturbant pour l'ensemble de la population de suivre ça et de comprendre. Et puis, il faut pas oublier de l'autre côté aussi qu'il y a une fatigue qui s'installe de tout ça. On est rendu à 6 mois de pandémie ici. Le confinement, c'était le 13 mars et ça devient lourd pour tout le monde. Et donc, je comprends que les gens aient un petit peu moins confiance et soient un petit peu moins optimistes par rapport à ce qu'ils entendent aussi.
Et quand même, Madame Granbaud, quand on lit les résultats de ce sondage-là qui a été mené par Cyrano, 60% des Québécois qui se lavent pas les mains en revenant chez eux.
Ouais.
Je veux dire, c'est la base, là. On nous répète ça depuis des mois.
C'est ça. Mais c'est comme vous dites, il y a beaucoup d'informations et de l'autre côté, on est obligé de répéter parce que c'est des choses qu'on pense acquises et qui finalement ne le sont pas encore. Et donc, c'est toute la complexité de la situation. Mais effectivement, on va malheureusement, je pense qu'il va falloir le répéter encore, les principes de base de se laver les mains, de la distanciation, de faire les activités avec un nombre limité de personnes ou en tout cas en prenant les mesures nécessaires pour pas qu'on se retrouve à une augmentation de cas qui va conduire à de nouvelles lignes directrices qui vont nous ramener en arrière, en fait.
Savez-vous quoi, Madame Granbaud? Je vais faire un parallèle. On dirait qu'en ce moment, c'est un peu comme les informations nutritionnelles. Tu sais, les infos qu'on a par rapport à la COVID-19, on est devant une abondance d'études, de données, d'experts qui font des sorties pour dire toutes sortes de choses. Puis les gens, tout comme avec l'information nutritionnelle, disent, on sait plus quoi faire, on sait plus quoi manger, on sait plus qu'est-ce qui est bon pour nous. Tu sais, à un moment donné, il y a plusieurs études qui démontrent quand même qu'au niveau de filtrer l'information, d'analyser des textes, de tirer des conclusions et de savoir lire aussi des données, ce qui ressort, la méthodologie, les gens s'y perdent et c'est tout à fait normal. Et devant cette espèce de trop-plein, ben décident tout simplement de baisser les bras. Ça, tu sais, ça se peut à un moment donné qu'on soit aussi dans cette idée-là. Par rapport au dépistage... il y a un chercheur de McGill qui dit que dépister certains groupes pour contrôler la deuxième vague, ça serait peut-être une bonne idée. Est-ce que c'est une stratégie qui devrait être envisagée par le gouvernement québécois selon vous?
Je suis tout à fait d'accord avec ça. On a beaucoup parlé de ça pendant la première vague et je pense que j'ai fait partie des gens qui ont dit qu'il fallait tester plus et à l'époque, on avait toute la discussion sur tester les gens asymptomatiques. Ce que Dr Méziès dit, donc le chercheur de McGill, en fait, c'est les résultats d'une méta-analyse où ils ont analysé plusieurs études et puis ils font une synthèse, justement, comme vous dites, de plusieurs études. Donc, ils arrivent à cette conclusion-là et donc, ces données-là supporte le fait que dépister, c'est une des façons de se protéger de la transmission et de la propagation. Et donc, plus on va tester, plus on va être capable de repérer les cas, en fait, rapidement, même si, quand ils n'ont pas encore des symptômes, parce qu'il y a une période pré-symptomatique. Et si on peut éviter que les gens contaminent d'autres personnes à cette phase-là, ben, on va limiter les transmissions. On le voit, par exemple, prenez l'exemple de ce qui s'est passé la semaine dernière, je pense, ou un peu plus à Québec, au fameux bar où il y a eu du karaoké. Puis quand ils ont commencé à tester, à repérer les gens, ça a pris du temps que les gens soient convaincus d'aller se tester, de les repérer, tout ça. Mais du coup, ça a pris de l'ampleur. Je pense qu'on est rendu à plus de 70 personnes qui sont contaminées suite au résultat de cette activité-là. Donc, la transmission, plus vite on va tester les gens, plus vite on va pouvoir éliminer cette propagation-là.
Et par
ça,
rapport,
c'est vraiment la clé.
Par rapport... à la réticence des gens, peut-être, d'aller se faire tester au départ, peut-être si on n'avait pas cet écouvillon qui nous rentre jusque dans le cerveau, ça serait plus tentant. Là, on discute de nouvelles possibilités au niveau des tests, là, notamment un test salivaire dont les résultats seraient disponibles assez rapidement. Est-ce que vous pensez qu'on va y arriver bientôt? Est-ce que ces tests-là pourraient s'avérer efficaces?
Il y a beaucoup de progrès, c'est utilisé aux États-Unis. Il y a encore, je vous dirais que je suis vraiment pour ça dans la phase d'analyser tous les résultats et de voir à quel point c'est aussi sensible que les tests actuels par PCR. Il faut savoir que dans les tests de salive, il y en a qui sont utilisés, c'est ceux qui sont utilisés aux États-Unis. Ça gagne pas de temps dans le résultat parce que c'est la même technique d'analyse derrière. C'est juste qu'on n'a plus l'écouvillon.
Par contre, quand même.
Oui, c'est ça. Oui, c'est un
facteur. Pour les enfants.
Je suis d'accord. En Europe, par contre, les tests salivaires qui sont utilisés à certaines places, en fait, c'est un test complètement différent et qui, lui va plus rapidement, mais la sensibilité, en fait, et le nombre de faux négatifs, en tout cas, me semble pas convaincante, mais j'ai pas analysé toutes les données. Mais effectivement, il va falloir il y a beaucoup de monde qui travaille à développer des alternatives pour que ça aille plus vite et qu'il n'y ait pas l'étape de l'écouvillon, bien entendu, qui repousse certaines personnes et probablement rend les gens moins disponibles à aller se faire dépister de manière volontaire. C'est certain qu'il faut changer ça, mais il faut l'augmenter. On teste beaucoup, mais pas tant que ça au Québec finalement, quand on se compare avec d'autres endroits. C'est sûr qu'il y a une question de... Il y a l'écouvillon, il y a le test en lui-même, mais il y a aussi les ressources humaines derrière. Faut pas oublier que ça prend des humains dans les tests de laboratoire, dans les laboratoires qui font les tests, et que ça, il faut s'assurer qu'on ait suffisamment de personnel pour pouvoir assumer plus de tests aussi.
Bien, en tout cas, on a battu un record, 26 000.
C'est très rassurant de voir que au fur et à mesure on augmente et que c'est possible de se rendre à des chiffres comme ça. Je mettrais une petite limite à ça qui personnellement m'inquiète un petit peu. On rentre dans la période habituelle où de l'automne avec les autres virus respiratoires qui commencent à arriver et au Québec on ne teste plus pour les autres virus respiratoires parce qu'on a tout dédié aux tests de COVID-19 alors que les autres provinces, la majorité continue de tester pour les autres virus. Donc si on n'est pas capable, là ça prend des ressources humaines, ça prend des ressources aussi hein, parce que c'est les mêmes personnes qui font les deux tests et ça j'aimerais être capable de voir que on va être capable de faire 26 000 tests plus les tests sur les autres virus respiratoires.
Très bien, Madame Nathalie Granvaux, présidente de l'Association canadienne de virologie, merci beaucoup de nous avoir parlé.